You're with SBS Radio.
Commençons ce journal à Sydney où les résidents d'une tour à appartements ont dû être évacués après que des fissures aient été remarquées sur les poutres de leur édifice. Les résidents de 131 appartements ont dû quitter leur domicile de Mascotte hier soir. Les ingénieurs inspectent actuellement l'édifice, mais la police affirme qu'il n'y a pas de risque immédiat d'effondrement. Passons à l'international. Aux États-Unis d'abord, où le président Donald Trump continue de dire que son pays n'est pas impliqué dans l'attaque de deux pétroliers dans le golfe d'Oman. Éric DeSalve nous en dit plus.
Pas l'ombre d'un doute pour le président américain, c'est l'Iran qui l'a fait, martèle Donald Trump dans une interview fleuve accordée par téléphone sur sa chaîne préférée Fox News ce vendredi matin. Nous le savons, dit le président américain, parce que nous avons vu la vidéo. Une vidéo diffusée la veille par le Pentagone et que Washington présente comme celle d'un accostage par une vedette des gardiens de la Révolution, le bras armé du régime iranien, d'un des pétroliers ciblés dans le golfe d'Oman. Une vidéo mise en doute par de nombreux experts, mais qui constitue la preuve irréfutable de l'implication de Téhéran dans les attaques de tankers, selon le locataire de la Maison-Blanche. Les images montrent qu'une des mines n'a pas explosé, dit Trump, et sur cette mine, la signature de l'Iran est partout. Vous voyez un bateau essayant d'enlever la mine, c'était leur bateau, c'était eux. Ils ne voulaient pas laisser de preuves derrière eux. Sur Fox News, Donald Trump qualifie par ailleurs l'Iran de nation terroriste avec laquelle les États-Unis sont en conflit dans de nombreux endroits du monde comme l'Irak et le Yémen. Nous allons voir comment les arrêter, prévient le président américain.
Éric DeSalve pour RFI. Un panel de l'Organisation mondiale de la santé a décidé de ne pas déclarer l'état d'urgence international en République démocratique du Congo, malgré que l'épidémie d'Ebola qui sévit vient de se propager en Ouganda. Le panel a conclu qu'une telle déclaration causerait trop de risques économiques pour le pays, particulièrement si les frontières étaient fermées. L'épidémie d'Ebola en RDC est la deuxième pire à ce jour, avec plus de 2000 cas de personnes infectées et plus de 1000 morts depuis août dernier. L'épidémie a rejoint l'Ouganda cette semaine, faisant 2 morts. Le docteur Preben Avitslan, en charge du comité d'urgence, a dit ne pas vouloir empirer la situation.
The lack of funding makes the response in the Democratic Republic of Congo and the preparedness work in the neighboring countries makes it more difficult, and it may delay the actual stamping out of this outbreak.
Le docteur Preben Avitslan. À Hong Kong, des milliers de maires se sont réunis dans le district central hier pour manifester contre le projet de loi qui permettrait au gouvernement d'extrader ses citoyens en Chine continentale pour y être jugés. Les débats sur le projet de loi ont été reportés cette semaine, mais la chef du gouvernement local, Carrie Lam, est toujours en faveur. Dora Narn, une maire présente à la manifestation, espère que Lam va changer d'idée.
First of all, she's wrong in making an analogy that she is the mother of the Hong Kong people, because we don't think so, because she is our civil servant and she needs to do her job, but she's not doing it. Yeah. So that's why I wanted to come here and be in solidarity with other real moms that and to express our wish for our kids.
Dora Narn, une manifestante à Hong Kong. Au Soudan, l'opposition demande une enquête internationale sur la répression du 3 juin qui aurait fait plus de 120 morts. Les négociations entre militaires et civils sont dans l'impasse malgré la médiation du premier ministre éthiopien. Les détails avec Léonard Vincent de RFI.
Nous n'avons pas confiance dans leurs paroles. Voilà en quels termes, sans détour, un responsable de l'opposition explique son refus de pourparler direct avec les militaires. Le face-à-face n'est plus envisageable étant donné les promesses jamais tenues, ajoute-t-il. Une médiation internationale est donc indispensable et aussi des garanties, en cas d'accord, que cette fois, il sera bel et bien appliqué. C'est donc le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed qui a endossé ce rôle. Passé par Khartoum la semaine dernière, il doit y retourner la semaine prochaine. Lundi, les 28 pays européens doivent parallèlement adopter une position commune et peut-être nommer un envoyé spécial pour le Soudan. Le monsieur Afrique de Donald Trump, Tibor Nagy, quant à lui, a rencontré tout le monde jeudi et il a réitéré les demandes de gestes de retour à la confiance, comme la démilitarisation de Khartoum par exemple. Fort du succès de leur grève générale, les civils sont eux toujours sur la même position. Ils exigent le contrôle de la transition. Quant aux militaires, ils insistent auprès des médiateurs pour garder le contrôle de domaines régaliens, notamment la sécurité bien sûr, mais aussi le budget militaire et l'importante industrie d'armement. Et enfin, l'épineuse question de la justice, craignant évidemment d'être poursuivi après avoir quitté le pouvoir.
C'était Léonard Vincent. En Guinée, le calme est revenu après les affrontements meurtriers à Nzérékoré. La répression d'une manifestation liée au débat sur le changement de constitution a fait un mort et 31 blessés jeudi dernier. Julie Vandal a plus de détails.
Ce qui devait être hier un rassemblement du Front National pour la défense de la Constitution au siège du parti UFDG s'est transformé en heurts avec les forces de l'ordre. Moïse Abba, membre du comité exécutif du FNDC de Nzérékoré.
À 8h30, ils ont encerclé le lieu. Ils sont venus poser des camionnettes militaires jusqu'à moins de 10 mètres. Et là, les jeunes qui agitaient les drapeaux de non au changement de Constitution sont entrés dans une phase de provocation et les gendarmes ont lancé les gaz lacrymogènes en premier. Et les jeunes ont répondu par des coups de pierre. Nous, on a essayé de calmer de tous les moyens, mais impossible.
Dans l'après-midi, de nombreuses boutiques ont été pillées. Des affrontements ont ensuite éclaté entre sympathisants du non et partisans d'un changement de la Constitution. Affrontements qui se sont poursuivis ce vendredi dans certains quartiers. Si la tension est retombée ce soir, Eladj Sorissano, le préfet de Nzérékoré, reste prudent.
Comme partout ailleurs dans le monde, il y a des têtes dures, des têtes fêlées, mais la situation est presque calme. Depuis ce matin, dans un quartier, il y a deux groupes de jeunes qui s'affrontaient. On a fait intervenir les forces de sécurité, la police et la gendarmerie. Le maire, le préfet, le gouverneur, on s'est tous rendus sur le terrain pour sensibiliser les jeunes des deux côtés. Au moment où on quittait, il y avait déjà la calme.
Dans ce contexte, aucun couvre-feu n'a été instauré ce vendredi soir.
Julie Vandal pour RFI. Passons maintenant au sport. La Coupe du monde féminine de foot bat toujours son plein en France. L'Italie a défait la Jamaïque 5-0. Le Japon a battu l'Écosse 2-1 et l'Angleterre a défait l'Argentine 1-0. C'est Jodie Taylor qui a compté pour l'Angleterre à la 62e minute de jeu. L'entraîneur Phil Neville s'est dit très fier de son équipe.
I really enjoyed the game. I enjoyed our performance. And I'm so proud of them. I stood here 4 days ago, and I was slightly critical of them. That's because of the standards that we'd set. But I'm proud of every single one of them tonight. I've got to say that Ellen White, Jodie Taylor, two of my centre forwards, keep scoring goals. We need them to keep scoring goals, and Jodie was phenomenal tonight.
C'était Phil Neville, l'entraîneur de l'équipe de foot féminine anglaise. Et côté tennis, la championne de Roland-Garros, Ashleigh Barty, se prépare pour la Birmingham Classic qui a lieu la semaine prochaine, ainsi que Wimbledon dans moins d'un mois. L'Open de France était une première victoire en grand chelem pour la joueuse australienne de 23 ans. Tous les yeux sont maintenant rivés sur elle alors qu'elle tentera de faire ce que seulement 6 joueuses ont réussi auparavant, gagner Roland-Garros puis Wimbledon tout de suite après. À suivre. Et puis parlons d'art. Pour terminer le journal, on inaugure aujourd'hui à Paris une immense fresque temporaire de 600 mètres carrés au pied de la Tour Eiffel. Grégoire Sauvage nous en dit plus.
Il faut prendre de la hauteur pour admirer la fresque qui s'étend sur toute la longueur du Champ de Mars. Depuis le deuxième étage de la Tour Eiffel, on découvre Beyond Walls, au-delà des murs, une œuvre éphémère représentant des mains qui s'unissent et qui s'entraident. L'œuvre s'inspire du geste des marins sauveteurs pour porter assistance aux naufragés. Pour réaliser cette performance titanesque, l'artiste français Saïp a travaillé à partir de photographies.
On a une banque de données maintenant où on a pris des gens connus, des footballeurs, des politiciens, avec des gens pas connus du tout, des migrants, des réfugiés. Même moi, en fait, à un moment donné, on ne sait plus d'où viennent les photos et c'est la logique du projet.
Avec Beyond Walls, l'artiste rend hommage à l'association SOS Méditerranée qui, depuis mars 2016, a secouru près de 30 000 personnes, mais dont le bateau emblématique, l'Aquarius, a été immobilisé pour des raisons administratives et judiciaires. Francis Valla est le président de SOS Méditerranée.
La solution est complexe. En tout cas, il y a une chose qu'on sait, c'est qu'elle ne peut pas être, ça ne peut pas être de les laisser couler. On va atteindre bientôt, depuis le début de la crise migratoire, peut-être environ, et c'est sûrement sous-estimé, 60 000 morts près de nos côtes. Ça ne peut pas être ça, la solution.
Après la France, l'œuvre voyagera à travers le monde avec pour l'heure une vingtaine de métropoles annoncées, dont Genève, Berlin, New York ou encore Nairobi.
Grégoire Sauvage pour RFI. Jetons maintenant un coup d'œil à la météo avant de passer à la revue de l'actualité du Pacifique d'Élodie Largenton. À Perth, aujourd'hui, un maximum de 19 degrés. Adélaïde, 17. Melbourne, 16. Hobart, 13. Canberra, 15. Wollongong, 18. Sydney et Newcastle, 20 degrés. Brisbane, 25. Cairns, 27. Et à Darwin, 32 degrés. On rappelle des grands titres de ce samedi 15 juin. À Sydney, les résidents d'une tour à appartement de mascotte ont été évacués après que des fissures aient été remarquées sur les poutres de l'édifice. Le président américain Donald Trump accuse l'Iran d'être impliqué dans l'attaque de deux pétroliers dans le golfe d'Oman. Et l'Organisation mondiale de la santé a décidé de ne pas déclarer l'état d'urgence international en RDC, où sévit une grave épidémie d'Ebola.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.